Vous êtes sur RTL.
Présenté par Olivier Post.
Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Vous êtes député sortant, tête de liste pour le Parti Socialiste et pour Place Publique aux élections européennes. Vous êtes actuellement le troisième homme des sondages, loin derrière Jordan Bardella, mais plus si loin de Valérie Ayé, la candidate d'Emmanuel Macron. Nous allons tenter de voir ce qui séduit une part des électeurs d'Emmanuel Macron et de ceux de Jean-Luc Mélenchon. Taxer les riches, créer des voies légales d'immigration et mettre le paquet sur l'écologie, c'est votre programme. Êtes-vous le en même temps de gauche, le candidat des bobos ou le grand retour de la social-démocratie? Bienvenue dans ce grand jury, Raphaël Glucksmann.
Merci à vous.
À mes côtés pour vous interroger ce dimanche, Claire Convite du Figaro.
Bonjour.
Et Pauline Buisson de la rédaction de M6.
Bonjour.
Nous sommes donc à 2 mois des élections européennes et une première question de Pauline Buisson.
Oui, Raphaël Glucksmann, dans les sondages, vous êtes le seul candidat qui progresse, troisième largement derrière Jordan Bardella et à 4 points de la candidate d'Emmanuel Macron, Valérie Ayé. Comment expliquez-vous cette dynamique qui vous est favorable ?
Cette dynamique, on la ressent partout. J'étais à Clermont-Ferrand, à Rouen, à Nancy, et partout, en fait, il y avait la même attente, le même enthousiasme. Et moi, j'ai le souvenir d'une parole d'un homme d'un certain âge qui est venu me voir et qui a dit « Mais enfin, je vais pouvoir voter avec mon cœur. J'en ai marre de calculer au moment où je me rends dans l'isoloir. » Et je crois que le fait qu'on parle d'Europe, déjà qu'on parle du sujet de cette élection, et qu'on ait un cap clair, ça suscite une forme d'entrain. Après, c'est encore fragile. Et moi, j'essaye toujours de modérer les ambitions et les enthousiasmes. C'est encore fragile. On n'en est qu'au début.
La prochaine étape, ce n'est pas le croisement des courbes. Vous n'envisagez pas de rattraper Valérie Ayé, de passer deuxième?
La prochaine étape, c'est d'aller à Nantes pour parler de transition écologique et d'industrie, de liberté. La prochaine étape, c'est de parler de justice sociale, de justice fiscale. La prochaine étape, c'est de parler de ce défi immense qui se pose à nous, qui est la solitude possible de l'Europe. Vous vous rendez compte, le 5 novembre 2024, pour la première fois depuis des décennies, l'Europe pourrait se retrouver seule en cas de victoire de Donald Trump. Et donc, cette élection, elle pose une question existentielle. Est-ce que l'Europe peut assumer d'être une puissance? Et moi, je veux parler de cet enjeu-là, de cet enjeu existentiel. Et vous savez, l'Europe, moi, c'est le combat de ma vie. Et donc, je pense que dans la dynamique qui se crée, il y a aussi un impact de cette forme de sérieux qu'on incarne. C'est-à-dire qu'il y a une élection européenne qui pose une question, quelle Europe nous voulons? Et nous, nous répondons à la question. Et au départ, tout le monde nous disait, mais vous savez, quand vous parlez d'Europe, ça n'intéressera personne. Et en réalité, ça passionne l'Europe.
Mais on va parler de ces enjeux, mais pour l'instant, il y a un phénomène, effectivement, qu'on observe. Sur 100 personnes qui disent qu'elles ont voté, qu'elles vont voter pour vous, pardon, 38 ont voté Jean-Luc Mélenchon et 30 se sont rangés derrière Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès. Êtes-vous finalement, comme je le disais, en même temps de gauche, et comme le dit aussi la Fondation Jean Jaurès?
Mais je pense que les gens, beaucoup de gens, se sont scindés intérieurement. Ils se sont posé une question. Ils se sont dit, mais quel principe en moi, auquel principe j'accorde la plus grande importance? Si c'est la solidarité sociale et la transformation écologique, eh bien, je vote Jean-Luc Mélenchon au présidentiel malgré ses positions sur l'Europe, malgré ses positions sur la démocratie et les régimes autoritaires. Et si par contre, eh bien, ce qu'il y a de plus important en moi, c'est l'attachement à l'Europe et à la démocratie libérale, eh bien, je vote pour Emmanuel Macron malgré ses positions sur le social, malgré la réforme des retraites qu'il avait déjà annoncée. Et là, le message que nous, on envoie à ces électrices et ces électeurs, c'est de dire vous pouvez voter sans sacrifier la moindre partie de vous-même. Vous pouvez voter en accord avec vous-même. Vous pouvez voter même heureux de vous réconcilier avec vous-même. Et je pense que c'est ça qui plaît à des électrices et des électeurs qui ont fait des choix très différents au présidentiel.
Donc vous êtes le pont entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Mais en fait, on ne segmente pas le discours. C'est ça l'enjeu. Je sais qu'il y a beaucoup de communicants qui expliquent qu'il faut avoir des cibles quand vous parlez. Moi, je ne sais pas faire. J'y arrive pas. Alors, c'est aussi simple que ça, j'y arrive pas. Donc, on tient le même discours partout, mais ce cap clair peut aimanter des gens qui avaient fait des choix très différents. Et je crois qu'il faut qu'on tienne ce cap, sans se soucier de parler à tel ou tel segment de l'électorat, mais en exposant une vision de l'Europe et en montrant qu'en fait, on peut être viscéralement attaché à la solidarité sociale, viscéralement attaché à la transformation écologique et viscéralement attaché au progrès de la construction européenne.
Justement, pour comprendre votre positionnement européen, qu'est-ce que vous enleveriez du discours d'Emmanuel Macron de la Sorbonne, un discours en 2017 où il défendait une forme de souveraineté européenne sur la défense et sur la sécurité, pour la maîtrise des frontières et puis pour la transition écologique et également pour la réindustrialisation. Qu'est-ce que vous ne prenez pas dans ce discours ?
J'enlèverais toute la suite. Moi, le discours de la Sorbonne, en tant qu'Européen, il me convient. Il y a des manques dans son discours. Je rajouterai des choses. Je rajouterai la justice fiscale. Je rajouterai la solidarité sociale, qui était absente et qui sont toujours absentes de son discours. Mais sur la perspective de l'Europe, ce que je
ça, vous
regrette...
Partagez cette vision-là
d'Emmanuel
Macron.
Mais ce que je regrette, c'est la suite. C'est la suite. C'est le fait que, eh bien, à l'échelle européenne, le président Macron s'est opposé à toutes les directives qui permettaient justement le progrès de l'Union européenne. Je prends juste un exemple. La directive sur les travailleurs des plateformes, c'était une directive qui permettait de donner des droits, qui permet de donner des droits à des millions de travailleurs en Europe qui aujourd'hui sont privés de tout droit et qui sont les véritables forçats du 21e siècle. Qui s'y est opposé ? C'est les plateformes, c'est Uber, c'est Deliveroo, c'est ces gens qui travaillent sans aucune forme de droit, qui sont les nouveaux journaliers, si vous voulez, de notre époque. Eh bien, qui s'est opposé à cette mesure qui permettait le progrès du droit pour les travailleurs à l'échelle européenne ? C'est la France d'Emmanuel Macron. Mais je pourrais citer nombre de sujets sur lesquels j'ai travaillé, sur le devoir de vigilance des entreprises et l'exemption du secteur bancaire et financier, ou sur la question de la définition européenne du viol. C'est la France d'Emmanuel Macron qui a bloqué ces progrès de l'Europe. Donc, en fait, c'est pas le discours de la Sorbonne le problème. C'est l'application d'une politique européenne qui n'a pas eu lieu. Et Emmanuel Macron, il est contre les progrès de l'Europe quand les progrès de l'Europe remettent en cause des intérêts puissants dans nos sociétés. Or, l'affirmation de la puissance européenne, ça passera par la remise en cause de certains intérêts particuliers, et moi, je les assumerai.
Claire Convit.
Oui, Raphaël Glucksmann, pour revenir à vos adversaires dans cette campagne, il en est un qui la survole largement, c'est Jordan Bardella, qui reste stable autour des 30%. Comment est-ce que vous expliquiez que personne ne parvienne à l'atteindre ?
C'est... une vague extrêmement profonde, c'est l'échec, d'ailleurs c'est un échec collectif, c'est l'échec d'abord du gouvernement, du pouvoir en place, d'Emmanuel Macron lui-même qui avait promis de supprimer toutes les raisons du vote Rassemblement National, et c'est une vague qui traverse l'Europe, au-delà de la France, une vague d'extrême droite extrêmement profonde. Moi je l'explique d'abord par le sentiment d'impuissance qui mine nos démocraties partout en Europe. Cette idée que, finalement, on ne contrôle plus notre destin. Et tout l'enjeu de cette campagne, c'est de montrer que c'est à l'échelle européenne qu'on peut reprendre en main les choses. C'est à l'échelle européenne qu'on peut réindustrialiser les régions qui ont été les plus victimes de la globalisation et des délocalisations. C'est à l'échelle européenne et que donc, finalement, M. Bardella, eh bien, quand il est à Strasbourg, il vote contre tout ce qui permet de protéger les citoyens et les producteurs européens.
Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher cet électorat-là ? Pour lui parler ?
Eh bien, je vais dans les usines, je vais dans les fermes, je parle production, je parle rupture avec des politiques commerciales qui ont conduit à la désindustrialisation, qui ont transformé le continent européen en continent de consommateurs et non plus de producteurs. Je parle de régions qui sont complètement laminées par des décennies de délocalisation. Et ce que je dis aussi, c'est que le vote Rassemblement National, c'est pas un vote anodin, surtout dans la période qu'on traverse en temps de guerre. C'est pas de la morale, ça. C'est du réalisme politique. Le Rassemblement National, comme toutes les extrêmes droites européennes, ont pris le parti, depuis plus de 10 ans, de la tyrannie étrangère de Vladimir Poutine, qui attaquait nos intérêts vitaux, qui attaquait méthodiquement nos nations et nos démocraties. Et donc, je répéterai partout la même chose. Ces gens-là sont des patriotes de pacotille. Ils sont en réalité des idéologues qui servent des intérêts étrangers. Et ce n'est pas de la morale, encore une fois. Ce n'est pas les renvoyer au passé vieux de 80 longues années. C'est actuellement ce qu'ils font. Et donc, il faut à la fois expliquer qui ils sont, ce qu'ils font dans les institutions européennes, et répondre aux véritables angoisses, questions qui sont posées et qui nourrissent le vote du Rassemblement National, et en particulier sur la question de la maîtrise de notre destin et de la souveraineté. En fait, le vrai enjeu de cette élection européenne, c'est quelle est notre définition de la souveraineté. Tout le monde va vous dire qu'il faut reprendre en main notre destin et il faut être souverain. mais c'est à l'échelle européenne qu'on peut le faire. La France seule n'aura pas les moyens de remettre des règles dans la globalisation, de protéger nos marchés, de protéger nos productions. La France seule ne peut pas imposer de règles à des multinationales trop puissantes pour obéir à des États isolés. La France seule, eh bien en fait, c'est de la vassalité. Et l'Union européenne, c'est la capacité à reprendre en main notre destin. Et donc le grand débat, il doit être celui-là, parce que finalement, même s'ils ne veulent plus le Frexit, les politiques que propose le Rassemblement national et leurs actions dans les institutions européennes, c'est le démantèlement du projet européen, c'est la déconstruction de la possibilité même de reprendre en main notre destin.
Une campagne des européennes est aussi alimentée par l'actualité et l'actualité nationale. Jordan Bardella est-il aussi servi par l'actualité de l'ultra-violence entre les jeunes, après les agressions d'adolescents et la mort de l'un d'entre eux la semaine dernière, et après aussi les émeutes urbaines qu'on a connues l'été dernier, faut-il répondre à la demande d'autorité des Français ?
Cette demande, elle est légitime. Et d'abord, il faut que j'exprime ma compassion absolue à l'égard des proches, des victimes. Mais au-delà de cela, il y a une grande question qui est posée à notre société. Et ce n'est pas simplement une question qui est posée à l'école. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout le monde focalise le débat sur l'école. Comment rendre l'école plus autoritaire? Comment rendre l'autorité plus forte à l'école? Mais si vous n'avez que l'école et que tout le reste de la société est une jungle, l'école ne pourra pas assumer sa mission. Et finalement, la crise de l'école aujourd'hui, c'est largement une crise de la société dans son ensemble. J'entends quand on rappelle l'autorité de l'école de la Troisième République. Mais autour de l'école, il y avait quoi ? Il y avait des institutions qui fonctionnaient. Il y avait un écosystème dans la société qui tendait vers l'intégration à un projet collectif, à un projet commun. Aujourd'hui, le service militaire a disparu. Aujourd'hui, les syndicats qui avaient un vecteur d'intégration, alors, qui étaient un vecteur d'intégration
massive... Cette demande d'autorité, vous y répondez comment ?
En reconstruisant les institutions qu'on a perdues, en reconstruisant ce sens collectif et cette autorité
c'est
des institutions
les
publiques
institutions
qu'on a perdues. Mais par exemple, je vais vous dire une chose très évidente. Aujourd'hui, il n'y a plus d'institutions qui garantissent la mixité dans notre pays. Des jeunes qui naissent à Trappes, à Paris, dans le 7e arrondissement, ou en Picardie.
C'était toute la promesse de l'école républicaine, de la Troisième République.
Mais l'école seule ne peut pas, parce que l'école reproduit le quartier. C'est-à-dire que si vous avez une ségrégation géographique, l'école du quartier, l'école publique du quartier, elle va correspondre à la sociologie du quartier. Elle va être inscrite dans cette sociologie.
Donc, il faut
que les gens
se croisent. La violence, c'est la mixité sociale pour vous.
Il y a la mixité sociale et il y a des institutions qui brassent et qui expliquent un cap commun, qui intègrent. Et ces institutions-là, soit on les a supprimées, comme le service militaire, sans se poser la question de par quoi on les remplace. Soit elles sont en crise.
Donc pour vous,
et même les partis politiques qui sont en crise, vous savez, les partis politiques étaient aussi un vecteur d'intégration, étaient aussi un vecteur de mixité, où des gens venant de quartiers différents eh bien, se rencontraient et participaient à l'élaboration d'un projet commun. Et la crise de tous ces corps intermédiaires, eh bien, ça a comme conséquence l'archipélisation et la désintégration de la société.
Et par exemple, durcir les peines sur un certain nombre de faits pour réaffirmer l'autorité, ça, c'est pas une idée que vous suivez.
Mais que la justice soit intraitable, je suis évidemment pour... Mais simplement, le durcissement des peines seul ne suffira pas à répondre à une crise qui est d'ampleur, à une crise qui est une crise démocratique, une crise sociale, une crise de représentation de soi, de ce que ça veut dire qu'être français. Et ça passera par la réactivation de tout ce qui permettait justement de faire France ensemble.
Vous parlez d'intégration, pour revenir sur le plan européen, est-ce que vous voterez le pacte sur l'immigration la semaine prochaine à Strasbourg ?
Non, parce qu'il ne répond pas à l'objectif qui a été fixé, c'est-à-dire de faire une véritable politique migratoire commune à l'échelle du continent européen.
Mieux contrôler les frontières et partager les demandes d'asile entre les différents pays européens, ça, ce n'est pas une politique migratoire.
Eh bien, justement, ce n'est pas assumé jusqu'au bout du tout.
C'est-à-dire
aujourd'hui, par exemple, si on prend la question de la répartition, de l'effort, puisque pourquoi il y a eu besoin de cette discussion autour d'un pacte ? Parce que nous sommes dans un système.
Il y a des pays d'accueil.
Voilà, nous sommes dans un système qui s'appelle Dublin, pour entrer dans les détails, qui s'appelle Dublin et qui fait peser tout l'effort sur les pays d'accueil. Or, les gens qui prennent leur bateau au péril de leur vie pour rejoindre l'Europe, ils ne veulent pas rejoindre l'Italie ou la Grèce, ils veulent rejoindre l'Europe. Donc ça doit être une gestion qui doit être une gestion européenne. Or, dans ce pacte, justement, on ne sort pas de Dublin. On ne sort pas du fait que c'est les pays d'accueil qui vont assumer le quoi. Il n'y a pas de répartition. Par exemple, on a cédé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que dans les négociations, on a cédé à Orban et à la Hongrie. Et le fait est qu'aujourd'hui, par exemple, Orban peut décider que construire des barbelés tout autour de la Hongrie, c'est participer à une politique migratoire européenne sans accepter le moindre effort sur la question des répartitions.
Donc, la semaine prochaine, vous préférez ne pas avoir de réponse à ces questions-là?
Moi, ce que je vous dis, c'est que dans deux ans, on aura à nouveau, ici sur ce plateau, si vous voulez, un débat sur le nouveau pacte migratoire européen, parce que celui-ci ne répond à aucune des questions posées.
Donc vous préférez rien avant les élections européennes?
Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par exemple, dans ce pacte, on évacue complètement, mais complètement, l'un des deux grands piliers. Il y a la question de l'asile, des demandeurs d'asile, et l'autre grand pilier, qui est la question des migrations liées au travail. Vous savez, il faut arrêter l'hypocrisie. Et aujourd'hui, on vit dans l'hypocrisie. La vérité, elle est très simple, même si elle est difficilement acceptable aujourd'hui par toute une partie de l'opinion. C'est qu'il y a besoin d'une immigration de travail parce que l'Europe, eh bien, vieillit et que nous ne sommes plus capables d'assumer nos économies et nos besoins en termes de travail sans une forme d'immigration légale.
Donc,
et
donc cette hypocrisie... Ce que vous souhaitez, des filières d'immigration légale, concrètement, ça pourrait...
Des voies légales d'immigration, c'est-à-dire que les gens, au lieu de risquer leur peau en traversant la Méditerranée qui s'est transformée en cimetière, peuvent, de manière totalement légale et contrôlée, accéder au marché du travail en Europe et même pouvoir faire des mouvements qu'on appelle pendulaires, c'est-à-dire venir travailler ici, repartir dans leur pays. Et c'est ce qui est aujourd'hui rendu impossible par l'hypocrisie générale. Et nous, ce que nous proposons, c'est très simple. C'est à la fois mettre fin à l'indignité de ces gens qui meurent en Méditerranée, qui sont exploités par des filières de mafieux et qui ensuite dorment dans les rues de nos villes et de mettre fin au désordre qui est généré par le fait qu'on n'affronte pas cette question
avec votre raisonnement, par peur avec votre raisonnement, combien l'Europe, question, avec votre raisonnement, combien l'Europe peut-elle accueillir de migrants de manière légale comme ça?
Mais je ne vais pas vous donner un chiffre comme ça qui va varier en fonction aussi des besoins qu'on identifie pour les économies européennes.
Mais donc pour vous, le principe, c'est bien ça, c'est, on détermine le nombre de personnes qu'on...
Oui, et je vais vous dire une autre chose. Aujourd'hui, l'hypocrisie, elle conduit à quoi? À ce que les gens risquent leur vie pour traverser la Méditerranée et qu'ensuite, ils vivent pendant 2 ans, 3 ans dans un trou noir légal, qu'ils dorment porte de la chapelle, dans des tentes et que finalement, ils sont employés de manière complètement illégale, en dehors de toute forme de droit, par des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et finalement, ils vont finir par être régularisés.
Donc, ce que vous proposez, c'est une forme de carte verte, c'est ça, sur le modèle un peu américain ou quelque chose comme ça?
Oui, et ce qu'on propose, c'est surtout des visas multi-entrées de travail. Et en plus, ça résoudra une autre question, parce qu'il y a une autre question qui est posée. C'est la question des réadmissions. Quand vous émettez ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français, ensuite, la réadmission dépend des laissez-passer consulaires des pays d'où viennent ces gens. Et ce que nous proposerons à ces pays, c'est un contrat. La possibilité d'avoir des visas multi-entrées de travail et en échange, eh bien, l'obligation de produire ces laissez-passer consulaires.
Une forme de donnant-donnant.
Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais pour aboutir à ce donnant-donnant qui est parfaitement rationnel et réaliste, il faut quoi? Il faut simplement que nous assumions de nous confronter à notre propre réalité.
Ce que je vous explique... Votre discours pro-immigration, vous ne doutez pas qu'aujourd'hui, il fasse encore monter...
C'est pas un discours pro-immigration, c'est un discours qui est hostile à l'indignité et au désordre dans lequel nous plonge l'absence de politique migratoire. Et ce que j'explique, moi, de manière très simple, c'est que tous les slogans d'estrade de l'extrême droite sur l'immigration zéro, ça produira quoi? Ça produira, eh bien, la mort des économies européennes, l'enfermement des sociétés européennes, et au-delà de ça, ça produira des déceptions immenses chez ceux qui y croient, parce que finalement, ils vont faire l'inverse quand ils seront confrontés à la réalité. Regardez Madame Meloni, qui a fait campagne en Italie pour nous expliquer qu'elle allait mettre des sous-marins quasiment pour couler les bateaux et faire un blocus naval. Eh bien, en réalité, confrontée à la réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite 400 000 travailleurs étrangers en Italie. Et que donc il faut arrêter avec cette hypocrisie, puisque finalement, ce que cela produit, c'est de l'irréalisme, c'est de l'indignité et c'est du désordre.
Est-ce que, jusqu'où va votre envie d'Europe? Vous êtes fédéraliste, vous voudriez que, sur le sujet de l'immigration qu'on vient d'évoquer, mais sur d'autres sujets aussi, les pays soient finalement en partie sur les questions européennes?
Moi, je suis réaliste. Ce que je veux, c'est que les citoyennes et les citoyens soient capables de reprendre en main leur destin. Et donc, le débat théorique entre fédéralisme et souverainisme...
Et pour reprendre destin, ils mettent une partie, une plus grande partie de leur destin dans les mains de l'Europe.
On identifie les chantiers sur lesquels la taille européenne est la bonne taille, la bonne échelle, et on délègue de la souveraineté à l'échelle européenne. Ouais. Et donc, on assume des sauts fédéraux. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans les règles qu'on veut imposer aux multinationales, dans la mise en place, ce que j'appelle de mes voeux, d'un protectionnisme écologique, eh bien, ça se fera où, ça, ce protectionnisme écologique, pour protéger nos productions et protéger le climat? Donc ça se fera où? Ça ne se fera pas aux frontières de la nation,
discours,
ça se fera aux frontières
discours,
de l'Union européenne.
Dire que pour reprendre le contrôle, il faut abandonner en grande partie le contrôle national qu'on a aujourd'hui au niveau européen.
Il faut assumer de construire l'Europe. Et il faut identifier les chantiers pour lesquels c'est rationnel, réaliste, et de toute façon, la seule solution, d'augmenter la puissance de l'Europe.
Mais avec la situation politique européenne actuelle, c'est quelque chose de réaliste, d'envisageable,
mais regardez ce qu'on a fait.
Même par rapport au fonctionnement
aujourd'hui d'Europe. Regardez ce qu'on a fait. Est-ce que si on vous avait dit, un an avant le Covid, ou quelques mois avant la pandémie, si on vous avait dit que les pays européens mutualiseraient leurs emprunts et leurs dettes...
C'est des circonstances exceptionnelles. Et
mutualiseraient, vous n'y aurez pas cru.
Vous
auriez cru que c'était un discours profondément idéaliste. Ça a été fait et ça a sauvé l'Italie, la Grèce et l'Europe en général.
Mais aujourd'hui, vous avez le sentiment que les 27 sont prêts à s'engager plus sur ces thématiques,
par exemple, d'immigration notamment.
Au
moment où on se parle,
ensemble.
J'ai pris un exemple sur la pandémie. Regardez ce qui se passe au moment où on se parle. On se rend tous compte qu'on est incapable de produire les munitions qui sont nécessaires à la résistance ukrainienne. Que la France seule n'est capable de livrer que 3000 obus par mois après 2 ans de guerre à la résistance ukrainienne, alors que les Russes en tirent 20 000 par jour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on va progressivement aboutir à un emprunt commun, c'est ce que nous proposons à l'échelle européenne et à la transformation de la Commission européenne en centrale d'achat, comme elle l'a fait pour les vaccins, en centrale d'achat pour les armements. Et donc, c'est un saut fédéral qui va aboutir sous la pression des événements. La même chose va se produire sur la question de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est l'immense défi qui est devant nous. C'est d'ailleurs pas simplement un défi écologique, c'est aussi un défi géopolitique.
Ben
c'est la capacité à reprendre le contrôle sur notre production d'énergie.
Justement, à propos de transition écologique.
Et cela, ça va supposer quoi? Laissez-moi finir juste ça. Ça va supposer un grand plan d'investissement à l'échelle européenne. Donc, un saut, oui, de délégation de souveraineté à l'échelle européenne, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire cette transition écologique.
Alors justement, à propos de transition écologique, le pacte vert, ce qu'on appelle le Green Deal, connaît quand même un sévère retour de bâton avec la crise agricole, et les objectifs écologiques de la PAC, de la politique agricole commune, ont été revus à la baisse. Est-ce que c'est votre échec, ce pacte vert?
C'est notre réussite, ce pacte vert. Simplement, si on en reste simplement à l'édification de normes contraignantes et d'objectifs contraignants.
C'était en grande partie le pacte vert.
Eh bien, ça ne fonctionnera pas et on fera face à une insurrection partout.
Et ça, vous avez changé sur ce sujet-là, parce que le pacte vert, vous l'avez soutenu. C'était quand même principalement, c'était quand même principalement des contraintes et des normes. Aujourd'hui, vous dites, il faut qu'on arrête de faire des normes et des contraintes.
Non, il ne faut pas qu'on arrête de faire des normes et des contraintes. Et d'ailleurs, un des grands sujets de cette élection, ça va être, est-ce qu'on va détricoter le pacte vert ou pas? Non. Parce que les objectifs fixés par le pacte vert répondent à une urgence, qui est l'urgence climatique, et on ne rognera pas sur le pacte vert.
C'est en cours de détricotage.
C'est une erreur, et on reviendra sur la question agricole juste après. C'est une erreur parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas renier sur les objectifs. Ce qu'il faut, c'est mettre les moyens derrière. C'est transformer ce pacte vert en grand plan d'investissement industriel. C'est faire, en fait, simplement ce que les Américains ont fait avec l'Inflation Reduction Act. C'est-à-dire, si vous voulez réussir cette transformation écologique, si vous voulez qu'elle signifie une réindustrialisation de nos pays, si vous voulez qu'elle signifie plus d'usines et pas moins d'usines, plus d'emplois et pas moins d'emplois, eh bien vous devez avoir un grand plan d'investissement avec un cap clair. Oui, ça s'appelle de la planification à l'échelle européenne.
Mais par exemple...
Il faut faire ce que les Américains ont fait. Il faut le faire, pourquoi? Parce que sinon on perdra tout sur la transformation écologique. Et on ne la fait pas par gaieté de cœur, cette transformation, simplement.
C'est
absolument nécessaire, sinon nous aurons à subir les conséquences de l'effondrement climatique.
Mais par exemple, la fin des ventes de voitures thermiques en 2035, ça vous semble toujours réaliste?
Eh bien, il faut un grand plan de reconversion, justement, des industries automobiles. Et ce qu'il faut aussi, c'est un
Donc
grand...
Donc on n'est pas prêt pour l'instant, c'est ce que vous dites.
Mais bien sûr qu'on n'est pas prêt pour l'instant. Et c'est ça l'alerte que je lance. Et c'est pour ça qu'avec notre grande famille social-démocrate européenne, celle qui doit gagner les élections et fixer l'agenda des 5 prochaines années, puisque c'est ça d'abord l'enjeu politique, c'est quelle force politique va dominer les politiques européennes. Eh bien, avec notre groupe, nous préparons un grand plan d'investissement qui soit l'étape 2 du pacte vert, qui soit un plan d'accompagnement des industries, de réindustrialisation. Mais ça suppose aussi une rupture avec certaines pratiques commerciales
donc,
de l'Union européenne.
Si les élections européennes ne se passent pas comme vous le souhaitez, ça met en danger le pacte vert, la deuxième étape?
Mais la droite européenne a été très claire là-dessus. Elle entend détricoter ce pacte. Et nous, ce que nous entendons faire, c'est lui donner un débouché positif pour les sociétés européennes, qui soit socialement juste et qui nous permette d'assurer notre souveraineté industrielle. Et donc, c'est un choix massif. Et c'est d'ailleurs le grand choix de ces élections, puisque à l'échelle européenne, le débat, il n'est pas entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, qui sont dans des petits groupes au Parlement européen. Il est entre mon groupe, le groupe social-démocrate, et la droite européenne du Parti populaire européen. Et la question écologique est centrale dans cette confrontation. Et c'est ça qui va être décidé le 9 juin. En fait, si vous voulez, ce n'est pas la même chose d'avoir à la tête de la Commission européenne, puisque c'est ça qui se décide, un Jacques Delors ou un Barroso. C'est pas la même chose d'avoir l'esprit de la CFDT à la tête de l'Union européenne et l'esprit de Goldman Sachs. Ça débouchera sur des politiques sociales différentes, ça débouchera sur des politiques environnementales différentes,
Goldman
ça débouchera
Sachs,
sur des politiques industrielles différentes.
Vous visez la liste d'Emmanuel Macron quand vous dites ça?
Mais Emmanuel Macron, sa liste ne présente même pas de Spitzenkandidat, comme on dit, donc de candidat à la présidence de la Commission européenne, parce qu'ils ont intégré le fait que de toute façon, il serait en soutien à Ursula von der Leyen. Et qu'ils agissent comme une force d'appoint au Parlement européen. Mais c'est ça qu'il faut répéter.
C'est
que,
si vous voulez,
j'ai entendu Mme Ayer, qui répète partout qu'en termes d'influence, il était utile de voter pour elle. Mais la vérité, c'est que son groupe est très, très peu influent comparé au nôtre.
C'est qui Goldman Sachs, alors, juste pour comprendre, au niveau européen?
C'est la droite européenne. C'est cette politique fondée sur le pur libre-échange, sur la concurrence libre et non faussée, sur le dogme de l'austérité, et c'est ça qu'il faut empêcher à l'échelle européenne. Si on veut retrouver la main, si on veut mener à bien la transformation écologique, si on veut réindustrialiser nos régions, eh bien on a besoin d'investissements massifs et on a besoin de protection. Il faut arrêter d'avoir des mots tabous. Le protectionnisme ne doit plus être un mot tabou.
Raphaël Glucksmann, on va se retrouver pour la seconde partie de ce grand jury. Pas d'austérité, dites-vous. Et l'une de vos idées, c'est de taxer les riches. On va y revenir. À tout de suite.
Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost.
Raphaël Glucksmann, candidat tête de liste aux européennes pour le Parti Socialiste et pour Place Publique, est notre invité ce dimanche. Alors avant de parler de votre idée de taxer les riches, on va revenir sur l'une des critiques qui revient souvent de la part de vos adversaires, Claire Conruit.
Oui, une critique qui vient notamment de la part de la France Insoumise, qui estime que vous êtes un candidat, un homme politique déconnecté, le candidat des centres-villes et des bobos. Que leur répondez-vous?
C'est tout le projet que je porte vise justement à permettre aux régions qui ont été les victimes de la globalisation de retrouver leur dynamisme, de retrouver des usines, de retrouver des emplois, de retrouver finalement ce qui fait le sel de la vie ensemble. Donc que notre projet, si vous voulez, c'est une réponse justement à ces 30 dernières années qui ont conduit au fait que notre tissu social a été tailladé par la globalisation. Et je leur réponds aussi que notre campagne, elle a lieu dans les usines, que ce soit en Lorraine ou en Normandie. On ne va pas simplement dans les centres-villes, justement. On va dans les usines. On essaye de voir les usines qui sont confrontées à une concurrence absolument déloyale, en particulier de la Chine. Donc, comment on répond à cette concurrence déloyale et comment certaines usines se réimplantent dans des territoires qui ont été dévastés et comment c'est la transition énergétique et la transition écologique, justement, dont on parlait juste avant la pause, qui permet cette réindustrialisation. Et que donc, tout notre projet, toute notre campagne vise à s'adresser à cette France qui a été victime de la globalisation.
Oui, mais de fait, la gauche aujourd'hui largement absente dans les campagnes, dans la ruralité, et très présente dans les zones urbaines. Donc, à qui la faute?
La faute à la gauche, sans embâge. Moi, je dis de toute façon toujours ce que je pense. On a délaissé. Moi, j'ai encore le souvenir d'une dame. Vous savez, quand il y avait ce qu'on appelait la jungle à Calais, où 10 000 exilés étaient entassés dans un camp de tentes. Et j'ai passé beaucoup de temps dans ce camp de tente avec les exilés et aussi avec les riverains. Et j'ai noué une relation avec une dame qui était une activiste du Front National, je crois, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et à la fin de nos échanges, je lui ai demandé, mais pourquoi, au fond, cet engagement aussi volontaire derrière Marine Le Pen, parce qu'elle n'était pas xénophobe, elle n'était pas raciste, elle était vraiment traversée de sentiments contradictoires. Et elle m'a répondu cette chose, elle m'a dit, vous savez, Marine, c'est la seule qui n'a pas honte de nous sur la photo. Et je pense que ça doit nous interroger, ça doit nous interpeller de manière extrêmement profonde.
Que la gauche
soit devenue, pour beaucoup de Françaises et de Français, le camp de la condescendance, en fait, le camp du mépris social. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut inverser. Ça ne s'inversera pas en 2 mois de campagne, là, aux européennes. Je veux dire, on n'a pas de baguette magique pour revenir sur cette perception-là. Mais ça doit être quelque chose qui doit nous empêcher de dormir, en fait, qui doit nous prendre aux tripes et qui doit nous interroger. Parce que si on s'engage en politique, ce n'est pas pour défendre ceux qui vont déjà bien. C'est pour défendre ceux qui ont réellement besoin de la politique. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation injuste, parce qu'ils se retrouvent dans une situation bloquée, parce qu'ils se retrouvent dans une situation d'exclusion. Et que la politique devrait être l'inversion de cela. Et elle devrait être faite pour eux. Et donc oui, c'est une question majeure. Moi, vous pensez que ça ne me travaille pas tout le temps de voir dans tous les sondages, les uns après les autres, ces données qui disent que les ouvriers en France, ils votent, soit ils s'abstiennent, soit ils votent majoritairement pour le Rassemblement national.
Dans les solutions que vous aviez défendues dans la première partie du grand jury, c'était notamment des investissements massifs de la part de l'Europe, que ce soit pour la transition écologique ou pour l'industrie. Et votre solution pour trouver de l'argent, c'est...
Et les deux sont liés, hein, transition écologique et industrie,
ouais, contrairement et à ce qu'on pense. Et les deux votre solution pour financer tout ça, c'est de taxer les super riches, alors les 0,1% des plus riches, et puis également de taxer les super profits. La mise en place de cette taxe au niveau européen, ça rapporterait combien? Parce que des taxes sur les riches, notamment le gouvernement a essayé récemment d'en faire sur les super profits, ça n'a pas du tout rapporté ce qui était attendu.
Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont transposé la directive européenne sur la taxation des super-profits de telle manière qu'en réalité, elle apporte finalement un pécule extrêmement limité.
Ils attendaient 12 milliards, ça a été 300 millions à la fin.
300 millions, exactement. Et selon tous les fiscalistes et les experts de la Commission européenne, si ça avait été appliqué différemment en France, s'il n'y avait pas eu tous ces cadeaux offerts aux grandes entreprises, eh bien... ça aurait rapporté 10 fois plus au minimum.
Vous dites que c'était volontaire de la part du gouvernement français.
Je ne sais pas si c'était volontaire, en tout cas c'était un échec de plus. Mais la taxation sur les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen, selon les experts européens qui ont travaillé avec nous, ça rapporterait jusqu'à 200 milliards à l'échelle du continent. Et aujourd'hui, on est dans une situation, si vous voulez, où on a un problème budgétaire. Le gouvernement s'attaque directement aux droits des chômeurs pour répondre à une question budgétaire. Et nous, ce que nous proposons, c'est au contraire de déporter la question à l'échelle européenne pour construire des solidarités fiscales. Bon. Aujourd'hui, les riches, comme vous dites, c'est taxer les multimillionnaires et les milliardaires, sont aujourd'hui ceux qui ont un taux d'imposition réel sur leur patrimoine plus faible, les ultra-riches, si vous voulez. Ouais. Et ce que je veux dire ici, c'est que à l'origine de cette initiative citoyenne européenne que nous avons lancée avec nos amis sociodémocrates, avec ma collègue eurodéputée de Place Publique, Aurore Laluc, à l'échelle du continent européen, eh bien, il y a, comme premier signataire, des multimillionnaires qui disent « Nous voulons payer notre juste dû à la solidarité de nos sociétés. »
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, lui aussi, il souhaite taxer les milliardaires à l'échelle internationale. Vous êtes d'accord, finalement?
Alors, on a un projet européen. À chaque fois, les représentants de Bruno Le Maire, c'est-à-dire de la majorité présidentielle au Parlement européen, votent contre les amendements que notre groupe dépose sur cette taxation des ultra-riches à l'échelle européenne. Donc, repousser la chose en disant qu'il faut un impôt mondial sur les plus riches, pourquoi pas? C'est tout à fait bien, mais c'est très lointain. Et nous, ce que nous proposons, c'est de le faire dans un endroit où nous avons la main, c'est-à-dire à l'échelle du continent européen.
Vous vous dites c'est pas symbolique, c'est 200 milliards d'euros, mais ça donne quand même le sentiment que vous refaites un peu le coup de François Hollande en 2012, qui avait dit « mon ennemi, c'est la finance », qui voulait taxer à 75% les plus riches. Est-ce que c'est pas non plus très électoraliste ce que vous proposez?
C'est pas électoraliste, puisqu'on l'avait lancé bien avant la campagne électorale, et que c'est un projet qu'on porte depuis toute la mandature. De la même manière que s'il y a des taxations sur les super-profits que le gouvernement français, comme vous avez souligné, n'est pas capable de traduire de manière efficace en France, eh bien, s'il y a cette taxation sur les super-profits qui sont, on peut le dire, des profits de guerre, puisqu'ils sont liés à la guerre en Ukraine, eh bien, c'est grâce à notre groupe, parce que nous avons travaillé dessus à l'échelle européenne de manière inlassable. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas du tout électoraliste, c'est un projet de société. Est-ce que vous trouvez normal que 67 milliards de dividendes soient versés par les entreprises du CAC 40, que chaque année on batte un record et que dans le même temps il y ait 3000 enfants qui dorment dans les rues? Est-ce que vous trouvez normal qu'on s'attaque aux droits des chômeurs quand dans le même temps on peut constater, tous les fiscalistes le disent, que les dividendes versés aux actionnaires, que les dividendes versés aux actionnaires sont moins taxés que le travail? Et donc nous on veut moins de taxes sur le travail que sur les dividendes. Ça nous semble absolument logique, c'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas la seule source de financement de tous ces projets. Il y a aussi ce qu'on a montré pendant la pandémie, c'est-à-dire cette capacité d'endettement mutuel, et notamment sur les questions d'industrie de la défense, c'est la piste qui est creusée par la Commission européenne sous l'impulsion de notre groupe et de Thierry Breton, et nous, nous soutenons cela de manière résolue. Et ce que je veux dire pour conclure, c'est que c'est une question à la fois de crédibilité, de réalisme. Quand les démocraties sont en crise, quand elles sont face à une situation de guerre, quel est leur mécanisme d'autodéfense? C'est d'assurer la solidarité à l'intérieur de nos nations. C'est d'assurer la solidarité au sein des démocraties. Un conservateur comme Churchill l'avait compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a créé la NHS, c'est-à-dire la Sécurité sociale anglaise. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est du réalisme. Si on veut que nos démocraties tiennent, il faut qu'on rétablisse des solidarités en leur sein. C'est pas une lubie de se dire...
Créer des nouveaux impôts, ça peut être parfois une lubie de gauche. Mais
c'est pas des impôts qui viseront les classes moyennes européennes. C'est pas des impôts...
Non, mais c'est un peu la, c'est un peu la solution...
C'est simplement
un peu la solution magique.
Et c'est même pas quelque chose qui est contre les riches. C'est simplement une mesure contre l'injustice et une mesure pour l'efficacité. Aujourd'hui, le fait est que les multimillionnaires et les milliardaires ont un taux d'imposition sur leur fortune qui est bien moindre que la moyenne des citoyens européens. Et c'est pour mettre fin à cette injustice que nous proposons ce que nous proposons. Et je crois que ça emportera l'assentiment de millions et de millions de citoyennes et de citoyens européens, qu'on le fera et que vous verrez, ce sera en plus pour ces ultra-riches totalement indolore.
Vous évoquiez tout à l'heure, quand vous parliez des usines, la concurrence chinoise. C'est quoi votre solution pour faire face à cette concurrence chinoise?
C'est la mise en place d'instruments commerciaux. Moi, pendant tout mon mandat, je me suis battu pour qu'on mette en place un instrument commercial simple, qui est le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés. Ça a commencé par une grande mobilisation de centaines de milliers de citoyennes et de citoyens français, en particulier des jeunes, sur la question de la réduction.
Mais la question de la concurrence avec la Chine, elle va au-delà de la question des Ouïghours.
Je vais y venir. Ce n'est pas simplement la question des Ouïghours. C'est la question d'une concurrence fondamentalement déloyale. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi on a une faillite totale de tous nos producteurs de panneaux photovoltaïques? Pourquoi? Parce qu'on a laissé ces champions se faire ratiboiser par une concurrence chinoise absolument déloyale. Qui reposait sur quoi? L'esclavage des Ouïghours dans la production de polysilicium à 97%, des subventions massives à la production chinoise et une stratégie de vente à perte en Europe.
Donc
on a laissé faire cela par naïveté et
vous
par.
Vous savez aussi qu'on est dans
bêtise.
Une dépendance avec la Chine sur un certain nombre de sujets.
Mais il faut sortir de cette dépendance.
De la rétorsion
commerciale.
Qu'est-ce
que vous proposez? C'est d'augmenter les droits de douane?
Non, c'est de bannir les produits de l'esclavage. C'est d'augmenter ce qui a été mis en place, le mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières. Et c'est donc ensuite de développer une politique de soutien à nos productions. Par exemple, nous proposons un Buy European Act, c'est-à-dire de réserver la commande publique européenne aux producteurs européens.
Vous savez que la Chine menace de rétorsion commerciale vis-à-vis de ça, et qu'on a aussi on est très dépendant vis-à-vis d'un certain nombre de produits.
Nous ne faisons rien, parce qu'en fait, là, nous allons creuser
notre tombe dans des dépendances
absolues. Mais les rétentions commerciales, elles arriveront de toute manière à chaque fois que nous voudrons reprendre notre souveraineté que nous avons volontairement perdue.
Vous menacez d'autres secteurs.
J'aimerais que vous fassiez
Laissez-moi vous faire
une expérience. Vous avez vu à quel point ça a été difficile de s'émanciper du gaz et du pétrole russe. Faites une expérience. Il y a une crise géopolitique majeure avec la Chine. Ils envahissent Taïwan. C'est du domaine du possible. Ça entraîne des sanctions européennes et une crise géopolitique majeure. La Chine décide de cesser ses approvisionnements dans les secteurs stratégiques. Nos économies s'effondrent parce que nous avons laissé un pacte faustien s'établir entre les plus grands groupes européens qui ont délocalisé leur production en Chine pour augmenter leurs marges et qui nous ont laissés dans une dépendance totale. Donc il faut récupérer notre souveraineté.
Vous pensez qu'on a les moyens de partir dans une guerre commerciale aujourd'hui avec la Chine ?
Il ne s'agit pas de partir dans une guerre commerciale avec la Chine. Il s'agit d'établir des instruments qui sont universels. Ils ne visent pas spécifiquement la Chine, même si le principal résultat, ce sera la limitation des importations chinoises, et de récupérer notre souveraineté. Vous voulez que ce qui est arrivé au photovoltaïque européen arrive aussi à l'éolien, aux batteries, à l'ensemble des technologies critiques, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Nous sommes aujourd'hui totalement dépendants de la Chine, du régime communiste chinois, dont les intérêts et les principes sont hostiles aux intérêts et aux principes de nos démocraties dans tous les secteurs stratégiques de notre économie. Est-ce que c'est réaliste ? Moi, je vous dis, ce n'est pas réaliste. Et je sais que mon activisme sur cette question pour protéger à la fois les droits humains et nos producteurs, eh bien, m'a valu d'être sanctionné par le régime communiste chinois. Je suis un des 10 Européens qui a été sanctionné par le régime communiste chinois.
Quel type de sanction ?
Interdiction d'aller en Chine, interdiction de toute forme de contact pour moi ou ma famille avec le moindre officiel chinois, y compris des universités ou des think tanks. Et
Donc c'est un brevet de votre résistance ?
Non, mais c'est le brevet pour les gens qui se battent pour qu'on récupère de la souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes dépendants. Et être dépendant, c'est le contraire d'être libre. Je ne dis pas qu'il faut plus commercer avec la Chine. Ce que j'explique, c'est qu'on ne peut pas dépendre dans des secteurs qui définissent notre survie d'un régime comme le régime chinois. Et qu'on ne peut pas exposer nos productions, tout l'argent que vous allez investir dans les industries. Si vous ne filtrez pas ce qui rentre sur notre marché, ça sera de l'argent investi dans un panier percé. Et franchement, pourquoi nous serions les derniers sur Terre à être naïfs ? Pourquoi nous sommes les derniers sur Terre à ne pas assumer de protéger les intérêts européens ? Parce que les Américains ont décidé de le faire parce qu'ils avaient vu que la désindustrialisation des États-Unis au profit des Chinois était une catastrophe pour leur sécurité. Et nous, c'est une catastrophe pour notre sécurité aussi, mais nous n'avons pas le courage politique de le faire. Et donc, il faut qu'on se réveille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé notre liste Réveiller l'Europe, parce qu'en fait, c'est des décisions assez simples. Oui, qui auront des conséquences, mais qui sont vitales pour l'avenir de nos nations.
Pour parler à présent de la menace russe, vous pensez que l'Europe peut s'engager jusqu'où dans la guerre en Ukraine, jusqu'à l'envoi de troupes françaises? Ça a été l'un des débats de ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes un va-t-en-guerre, Raphaël?
Mais le va-t-en-guerre, c'est Vladimir Poutine. Et moi, je dénonce ce va-t-en-guerre depuis 20 ans. Et j'étais seul, ou presque seul, à expliquer, au moment, par exemple, de l'invasion de la Géorgie, qui a été démembré par les troupes de Poutine en 2008, que c'était un danger pas simplement pour la Géorgie, mais que c'était un danger pour l'Europe, ce qui était en train de se construire à Moscou. Et ensuite, en 2014, quand il y a eu l'annexion de la Crimée...
La France était intervenue à cette époque-là, mais...
La France était intervenue pour, in fine, avaliser l'annexion par la Russie, le démembrement, et vendre des armes à la Russie dans la foulée de l'invasion de la Géorgie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des Mistral, des bateaux d'invasion, et heureusement d'ailleurs que François Hollande les a annulés, ces ventes, parce que sinon ils auraient été utilisés pour envahir Odessa.
Alors, quel serait finalement le point de bascule qui ferait, selon vous, qui nous obligerait à engager des troupes françaises en Ukraine ?
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que ce moment n'arrive jamais. Et donc, ce débat-là.
Vous disiez, on ne produit pas suffisamment d'armement et on n'a globalement pas de finances pour financer cette guerre.
On n'est pas capable aujourd'hui, parce qu'on a tardé depuis 20 ans, à relancer notre production, on n'est pas capable d'aider les Ukrainiens à résister. Ce que les Ukrainiens nous demandent, ce ne sont pas des troupes françaises, ce ne sont pas des troupes américaines ou anglaises.
Ce sont des armes qu'on ne produit pas.
Ce sont des armes pour leurs troupes, parce qu'aujourd'hui, ce sont les soldats ukrainiens sur le front qui sont la première ligne de défense des Européens. Et ce que je veux dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas simplement là un enjeu de solidarité avec un peuple qui veut sa liberté. C'est notre propre sécurité qui est en jeu. Et chaque euro qu'on investit dans la résistance ukrainienne, c'est un euro qu'on investit dans notre propre sécurité. Parce que Vladimir Poutine, sa guerre, elle ne vise pas le Donbass ou la Crimée. Ce n'est pas une guerre pour des territoires ukrainiens. Elle vise nos démocraties. Moi, j'ai présidé au Parlement européen pendant tout mon mandat la commission spéciale sur les ingérences étrangères dans nos démocraties. J'ai analysé méthodiquement la guerre hybride que Vladimir Poutine mène contre nos démocraties. Et quand il attaque, quand ces cyber-hackers attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonne, pas loin d'ici, et que les médecins français n'ont plus accès aux dossiers médicaux des patients français. Ça ne se passe pas en Ukraine, ça se passe en France. Quand il envoie des agents moldaves taguer des étoiles de David sur les murs de nos rues juste après le 7 octobre pour créer une atmosphère de guerre civile dans notre pays entre juifs et arabes. Ça ne se passe pas en Ukraine, ça se passe en France.
Ça, ce sont les ingérences étrangères que vous craignez, des Russes, des Chinois également ?
Les Russes, les Chinois, les Qataris aussi. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de faire en sorte que nos démocraties soient traitées par des régimes autoritaires comme des serpillères. Vous savez que dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un commissariat secret chinois qui s'est installé sans réaction et que cela, ce n'est plus possible. Que des opposants russes ont été assassinés sur notre sol alors qu'ils étaient sous notre protection en Europe. Que finalement, nos débats publics ont été manipulés par des fermatrolles et des stratégies qui sont des stratégies qui visent à mettre le chaos dans nos démocraties. Vous savez, moi j'ai analysé comment en Espagne, pour prendre un exemple qui n'est pas français, en Espagne, eh bien, la stratégie des Russes a été de soutenir en même temps les ultra-indépendantistes catalans les plus radicaux et les ultra-nationalistes castillans de Vox, c'est-à-dire les deux pôles les plus opposés du débat. Et quel était le but ? Eh bien, de créer le chaos dans la démocratie espagnole.
Vous venez de quitter le réseau social TikTok, vous venez de le quitter, vous avez 60 000 abonnés environ. C'est par crainte justement de ces ingérences chinoises ?
Moi j'ai des abonnés, mais j'ai surtout des principes. Et donc, bien sûr qu'on m'a dit, mais avant une campagne électorale, pourquoi quitter un réseau social ? Mais quand la présence sur ce réseau social, qui permet des ingérences massives, où on n'a aucune certitude sur le siphonnage des données par le Parti communiste chinois, eh bien, ma présence devenait impossible. Et je préfère sacrifier l'audience que ça constitue plutôt que de sacrifier ma cohérence et mes principes. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'en ai marre de ce double standard. La Commission européenne nous a dit à nous députés, aux membres de la Commission, aux fonctionnaires de la Commission, qu'ils n'avaient plus le droit d'avoir TikTok sur tous les ordinateurs ou les iPads ou les téléphones qui sont liés aux institutions. Parce qu'il y avait un risque majeur pour notre sécurité, pour la sécurité de ces institutions. Et on laisse le reste des citoyens, comme ça, complètement sans protection. Et donc ce que je demande, et ce que je poserai comme acte au premier jour de notre mandat, c'est une commission d'enquête sur TikTok, sur la manière dont TikTok permet des ingérences dans nos sociétés et le bouleversement de notre débat public. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que la démocratie est fragile. La démocratie est fragile. Donc si on laisse des forces hostiles, qui d'ailleurs ont banni TikTok chez eux, hein, cet algorithme, les Chinois n'en veulent pas dans leur propre pays parce qu'ils savent la puissance de déstabilisation. Et donc si on laisse des régimes autoritaires avancer comme dans du beurre dans nos démocraties vont s'effondrer. Il faut qu'on soit capable se défendre. Il faut que la démocratie ne rime plus avec la faiblesse. L'Europe ne rime plus avec l'impuissance.
Une question sur la situation au Proche-Orient, Claire Canvit.
Oui, Raphaël Glucksmann. La France insoumise, les communistes et les écologistes accusent régulièrement Israël d'apartheid ou de génocide. Ce sont des termes que vous refusez d'employer. Pourquoi ?
Parce que moi, ce que je veux, c'est que le carnage s'arrête. Et donc, je fais quoi ? Je fais pression avec mon groupe, avec les députés européens qui se joignent à nous, pour qu'on ait des mesures concrètes de pression sur le gouvernement Netanyahou. L'enjeu principal, c'est d'arrêter ce carnage. Et donc, il faut la suspension de l'accord d'association avec Israël. Il faut qu'enfin nos paroles soient suivies d'actes. Et donc, les termes. Moi, j'ai une double attention.
Cet accord, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce qu'il...
Déjà, il comprend une clause droit humain. Mm-hmm. C'est un accord d'association, donc de coopération. Il comporte une clause droit humain. Ouais. Et cette clause droit humain doit être activée parce que ce qui se passe en ce moment à Rafah et à Gaza est proprement inacceptable.
Et sur des rétorsions économiques ou sur ça, là-dessus, il faut aussi agir ?
Il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition.
Mais vous êtes favorable à ça ?
Je suis favorable à ça parce qu'il faut que nos paroles soient crédibles. Quand on appelle à un cessez-le-feu, il faut que derrière, on puisse mettre sur la table des moyens de faire respecter notre parole. Et sur la question du génocide, moi j'ai une double attention à la question du génocide. Et je reprends à mon compte les termes qui ont été posés par la Cour internationale de justice. J'ai une attention particulière à tous les signes annonciateurs. Et donc, il y a un risque de génocide, a dit la Cour internationale de justice, et il est du devoir du gouvernement israélien et de l'ensemble des acteurs de la communauté internationale de prévenir ce risque. Voilà le langage du droit international. Voilà le langage de la responsabilité et de l'humanisme. Mais j'ai aussi une attention particulière au terme de génocide lui-même. Vous savez, moi j'ai été au Rwanda déterrer des cadavres dans les fosses communes et travailler pendant des années sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Et ce que je veux dire, c'est que ce mot, ce terme, je ne l'utilise pas facilement. Je ne l'ai pas utilisé pendant toute ma mobilisation sur la question de la Syrie et des 500 000 morts en Syrie tués par Bachar el-Assad. Je ne l'ai pas utilisé non plus sur l'Ukraine, et vous ne pouvez pas questionner mon engagement auprès des Ukrainiens, même après Boutcha, même après Irpin. Et donc, ma double attention me conduit à épouser le droit international et la Cour internationale de justice.
Et entre toutes ces critiques que la France insoumise notamment vous fait, cette critique de Jean-Luc Mélenchon qui vous accuse de déshumaniser les Palestiniens, est-ce que vous percevez derrière tous ces propos des relents antisémites de la part de la France insoumise ?
Je ne vais pas perdre mon temps sur ces critiques de la France insoumise. Nous n'avons pas bégayé pour condamner l'attentat terroriste ignoble du 7 octobre et qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et nous n'avons pas bégayé pour condamner la réduction en cendres de la bande de Gaza. Et nous ne bégayons pas, et nous n'avons pas de poids de mesure. Et nous ne bégayons pas quand il s'agit de défendre les droits humains et le droit international.
Donc Jean-Luc Mélenchon n'est pas clair sur ces sujets-là ? Ou en tout cas, il peut y avoir...
Vous savez, moi, mon problème n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Je remarque qu'il parle beaucoup de nous, qu'il parle beaucoup de moi, et que moi, je parle beaucoup d'Europe, de démocratie. Les divergences, je les assume, elles sont ultra claires pour tout le monde. Nous, notre cap, il est clair. La gauche de Jacques Delors et de Robert Badinter n'est pas morte. Elle est là, elle est en dynamique et elle défendra le projet européen et elle assumera la démocratie, la solidarité, la transformation écologique jusqu'au bout.
Merci Raphaël Glucksmann pour ce grand jury. À dimanche prochain. Bon dimanche à tous.